France Culture, les matins d'été.
35 ans entre l'emballage du Pont Neuf par Christo à Paris et la mort fin mai de l'artiste à l'honneur en ce moment au Centre Pompidou dans l'exposition Christo et Jeanne-Claude Paris. Il y a 35 ans, Christo était beaucoup moins célèbre évidemment. Les bâches publicitaires ne recouvraient pas encore les façades des monuments, mais on prenait déjà beaucoup de photos, même si ça n'était pas avec un téléphone. Et l'on s'interrogeait déjà sur l'art contemporain, pour qui, pourquoi, l'utilité de cet habit ne m'apparaît pas évidente, dit une employée de la Samaritaine. Sensuellement parlant, c'est formidable, estime pour sa part une enseignante. Des réactions tirées de votre livre, Nathalie Hennig, bonjour.
Bonjour.
Le Pont Neuf de Christo, ouvrage d'art, œuvre d'art ou comment se faire une opinion, publié en mars aux éditions Thierry Marchais. C'est une enquête que vous aviez réalisée en 1985 et qui n'avait jamais été publiée jusque-là. Expliquez-nous quelle était alors votre démarche de toute jeune sociologue.
Oui, en fait, j'ai un petit peu découvert la sociologie de l'art en faisant cette enquête. Quand j'ai appris, courant 85, qu'un artiste devait emballer le Pont Neuf, je me suis dit c'est un sujet en or pour un sociologue. Et donc j'ai fait des pieds et des mains pour pouvoir faire cette enquête que j'ai vraiment adoré réaliser, qui a été absolument passionnante parce que ça m'a permis d'abord de découvrir vraiment ce qu'est l'art contemporain d'un point de vue sociologique et de m'intéresser à la façon dont les gens réagissent lorsque on leur propose un objet qui est non identifiable, parce que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas le land art, qui ne connaissent pas l'art contemporain, c'était absolument inconcevable au sens propre du terme que l'on puisse considérer comme une œuvre d'art du tissu autour d'un pont et qui en plus était éphémère, n'allait pas durer. On était vraiment à l'encontre de toutes les conceptions traditionnelles de l'art, et du même coup ce qui m'intéressait c'était de comprendre non seulement le principe des opinions, est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, est-ce qu'on n'a pas d'opinion, mais aussi la façon dont les gens peuvent catégoriser, peuvent affecter une identité à un objet aussi difficile à caser dans leur cadre mental habituel.
Et alors justement, pourquoi est-ce intéressant de lire ce travail aujourd'hui, sachant que vous n'avez rien changé, hein, en tout cas au contenu de votre enquête, c'est vraiment celle le contenu de l'époque.
Oui, c'est le texte, on a voulu rééditer le texte absolument, enfin éditer le texte tel qu'il était à l'époque. Mais rien changé parce que je pense que d'un point de vue historique, c'est tout aussi intéressant de voir comment en 85, le grand public, parce que c'était essentiellement, je ne suis pas allée enquêter auprès des spécialistes d'art, c'était pas ça qui m'intéressait, c'était vraiment les passants, les gens dans les bus, les bouquinistes, les gens qui venaient voir l'objet. Je pense que les réactions sont tout aussi révélatrices de l'action de l'art contemporain aujourd'hui qu'à l'époque. Et ce qui moi m'a frappé et ce qui m'a donné l'envie et l'idée ensuite de travailler de façon plus approfondie sur l'art contemporain, c'est le fait que cette proposition est d'une certaine façon emblématique de ce que fait l'art contemporain en général, c'est-à-dire qu'il déplace des frontières, et notamment il déplace la frontière entre art et non-art. Alors, d'un point de vue littéral, le tissu autour du pont déplaçait la frontière entre ce qu'est le pont et ce que n'est pas le pont, mais d'un point de vue métaphorique ou symbolique, il déplace aussi la frontière entre un ouvrage d'art, un pont, et puis une œuvre d'art, une proposition telle que Christo l'a faite. Et je me suis dit vraiment que c'était vraiment typique de ce jeu que propose l'artiste entre une transgression des frontières traditionnelles de ce que le sens commun estime devoir être là, une transgression qui provoque évidemment des réactions, et mon enquête porte vraiment sur ces réactions, et qui ensuite va pouvoir être intégrée au monde de l'art par les commentaires, enfin tout le travail que font les intermédiaires de l'art, les critiques d'art, les commissaires d'exposition, etc., au prix évidemment d'une extension des frontières de l'art, de façon à ce que cette proposition puisse être considérée comme une œuvre d'art. Et c'est tout ce jeu que j'ai appelé le triple jeu de l'art contemporain, c'est le titre de mon premier livre sur l'art contemporain que j'ai publié en, en 98, donc assez longtemps après l'enquête. C'est tout ce jeu qui, me semble-t-il, est vraiment la clé de lecture de l'art contemporain en général. Et de ce point de vue-là, cette proposition de Christo en 85 est tout aussi passionnante à observer aujourd'hui.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait de micro-trottoir réalisé sur le Pont Neuf, diffusé dans les Nuits Magnétiques de France Culture, le 19 septembre 1985.
Vous êtes venu voir le Pont Neuf empaqueté ?
Non.
Vous n'êtes pas venu exprès ?
Non.
Mais vous saviez que ça avait lieu ?
Oui, j'ai entendu parler. Ils ont dit qu'il y aura un spectacle sur l'eau, ouais.
Oui.
Mais je ne me rappelle pas de la date.
D'accord. Ouais. Merci. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les gens discutent. C'est la première fois qu'une œuvre d'art suscite autant de discussions entre les gens.
Les gens parlent entre eux sur le pont.
Et on discute et les gens ne sont pas étonnés qu'on parle les uns avec les autres, ce qui est très très rare en France.
C'est un peu la fête alors sur le
un
pont
peu,
Neuf.
Un peu.
C'est aussi le soleil.
Bon, ça doit être aussi le soleil.
S'il pleuvait, oui.
Ouais, ouais.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Vous êtes venu voir le pont Neuf exprès ?
Oui, bien sûr.
Vous avez entendu parler du projet donc ?
Oui, j'ai entendu parler du projet, oui.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est très intéressant. Je pense que déployer tant de moyens pour si peu de finalité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai l'impression que c'est l'acte esthétique à l'état le plus pur, c'est-à-dire la chose faite pour elle-même et non pas pour autre chose. Et je crois qu'on est tellement habitué à une fin utilitaire, y compris parfois à l'art, que ça fait du bien de voir ça. C'est audacieux, la démesure est intéressante.
Voilà, archives de 1985, vous aviez entendu des choses du même genre dans votre enquête à l'époque, Nathalie et Nick. Le projet d'empaquetage de l'Arc de Triomphe est maintenu malgré la mort fin mai de Christo. Le projet, donc, ce sera dans un an, septembre-octobre 2021. Et évidemment, la réception sera tout autre, puisque voilà, entre-temps, il est devenu ce qu'il est devenu, parce qu'il y a 35 ans d'art contemporain entre les deux. Dans quelle mesure, justement, pensez-vous que cela biaisera quelque part cette réception de l'œuvre qui sera peut-être moins spontanée qu'elle avait été en 85?
Je ne suis pas certaine que ce sera aussi intéressant à observer, en tout cas d'un point de vue sociologique, parce que entre-temps, d'abord, Christo est devenu beaucoup plus connu, notamment grâce au Pont Neuf. Donc les gens ont... Beaucoup de gens ont intégré l'idée que l'art contemporain pouvait consister en ce type de proposition, puis beaucoup d'autres propositions d'art contemporain sont devenues célèbres, notamment les colonnes de Buren au Palais Royal, un an après le Pont Neuf, qui a fait évidemment énormément parler. Et puis, tout simplement, on a assimiler la pratique des bâches publicitaires autour des bâtiments lorsqu'on les restaure, chose qui n'existait pas à l'époque où le Pont Neuf a été emballé. Donc, il y a, me semble-t-il, une sorte de banalisation à tous les niveaux de ce type d'objet qui fait que probablement l'effet d'étonnement, l'effet de difficulté à le cadrer et du coup avoir une opinion à son sujet sera bien moindre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais sous-titré l'enquête oui. Comment se faire une opinion, parce que c'est ça la grande difficulté pour les gens lorsqu'ils ne parviennent pas à catégoriser un objet, à le faire entrer dans leur catégorie habituelle. Du même coup, le processus de construction d'une opinion est d'autant plus difficile, notamment lorsque on a affaire à quelque chose qui normalement devrait être cadré selon des valeurs esthétiques, hein, une œuvre d'art, la beauté, etc. Mais que la dimension esthétique est très très difficile à appréhender.
Alors nous allons parler ce matin aussi, Nathalie et Nick, de votre prochain livre, tout autre chose vraiment, mais d'abord sur cette question de l'artiste, du statut de l'artiste qui est l'un des axes majeurs de vos travaux. Je voudrais quand même vous entendre sur ce qui se joue et ce qui s'est joué avec la pandémie, sur notre rapport aux artistes. À la fois, on s'est aperçu peut-être qu'il nous manquait énormément. Et en même temps, il y a parfois eu un phénomène de rejet, d'hostilité même face à des récits d'artistes qui avaient choisi de raconter leur confinement et dont la parole a pu sembler déconnectée. Comment regardez-vous tout ça ?
Ben, un petit peu à la lumière de ce que j'avais montré dans un autre livre qui s'appelle L'élite artiste, où j'analysais la façon dont, après la Révolution française, les artistes ont, d'une certaine façon, pris la place des aristocrates dans l'imaginaire collectif, y compris l'imaginaire des artistes eux-mêmes, d'ailleurs, et où, du même coup, le fait qu'ils soient placés dans une position relativement privilégiée fait qu'on les sollicite pour donner des témoignages, pour intervenir, etc. Ils sont très 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 sollicités hein, dans les médias, etc. Mmh. Et avec des propositions qui souvent ne semblent pas à tout un chacun très différentes de ce que pourrait dire n'importe qui. Donc ça, il y a une sorte de de décalage entre ce qu'on attend d'eux et ce que dans certaines circonstances ils peuvent donner. Et puis lorsque ces artistes les artistes en question sont dans des positions privilégiées du point de vue matériel, ce qui n'est pas le cas de tous, hein. Je le dis tout de suite.
Bien sûr.
Le privilège est beaucoup plus symbolique que matériel, mais enfin, il y en a certains qui ont la chance ou qui ont le mérite d'avoir gagné beaucoup d'argent. Et là, du même coup, il peut y avoir un effet exactement le même effet que lors de la Révolution française, la révolte contre les privilèges des aristocrates.
D'autant que ces paroles-là sont arrivées quelque part au moment où d'autres paroles ont émergé de personnes que l'on entend beaucoup moins d'habitude, comme effectivement par exemple le personnel médical, et qu'il y a eu peut-être aussi un effet de contraste qui a pu jouer, non ?
Ah bah oui, tout à fait. On est quand même dans une société où la valeur d'égalité est très importante et où la mise en évidence des inégalités suscite toujours de grandes indignations. Et il se trouve que les artistes qui sont placés dans une position ambiguë, puisque symboliquement ils sont à la fois une élite et en même temps matériellement ils sont souvent marginalisés, posent évidemment des problèmes dès lors qu'ils ont accès à la parole publique et que on ne sait pas très bien si on doit les considérer comme les porte-parole des dominés, comme on dit aujourd'hui, ou comme au contraire des dominants qui utilisent leur prestige d'artiste à leur profit. Donc ça, c'est une ambiguïté qui est vraiment constitutive du statut d'artiste aujourd'hui et qu'on a bien vu à l'occasion de la crise sanitaire.
Alors le 17 septembre sortira, Nathalie Hennig, votre livre « La maison qui soigne, histoire de la retrouver » aux éditions Thierry Marchais, ouvrage qui fait écho à votre livre de 2013 « Maison perdue » dans lequel vous racontiez une longue suite de maisons disparues de votre vie. « La retrouver », c'est la maison que vous avez achetée en 2012. Dans une lettre à vos amis que vous retranscrivez au début du livre, vous écrivez à propos de cette maison ce que vous en avez pensé lors de la première visite, puis de la deuxième, puis de la troisième. Qu'est-ce qu'elle est moche ! Et pourtant, cette maison, c'est chez vous. Et plus que ça, la maison prend soin de moi comme je prends soin d'elle, écrivez-vous. Expliquez-nous ce lien où il est effectivement question du care et aussi de ce désir d'écrire sur la maison, sur cette maison.
Oui, alors je dis tout de suite que c'est pas un livre de sociologie.
Non, hein, parce que absolument.
Parallèlement à mon travail de sociologue, j'ai maintenant une petite activité d'écriture littéraire, hein, donc avec Maison perdue et puis aussi Une histoire de France que j'ai publiée en 2018. Et donc La maison qui soigne est à la fois la suite de Maison perdue et s'inscrit dans une sorte de trilogie hein, sur les maisons à la fois au sens matériel des habitations et au sens généalogique. Et donc, bon, c'est un travail que je fais à mes moments perdus, le soir, le week-end, en vacances, etc. Bon, la chose s'est imposée à moi peu à peu, l'intérêt de raconter une expérience paradoxale où on part de quelque chose que l'on n'aime pas et dont on estime qu'il n'est pas votre genre, hein, pour reprendre l'expression de Proust à propos de Swann tombé fou amoureux d'une femme qui n'était pas son genre, et où par toute une série de processus qui tiennent à la fois de l'objet lui-même, la maison en question, et puis du travail qu'on y fait pour le rendre acceptable, eh bien, peu à peu se crée un lien d'amour. Alors, un lien d'amour qui n'est évidemment pas réciproque, sauf si on fait de l'animisme et qu'on estime que votre maison est tombée amoureuse de vous, mais j'en suis pas là quand même. Bon, mais se crée un attachement très fort. Et en fait, j'ai eu envie peu à peu de décrire la forme d'attachement très particulier que l'on peut avoir envers une maison et un jardin, qui tient à la fois de ce que du sentiment d'une création, hein, de qu'on crée un lieu qui nous paraît en tout cas aussi beau que possible, à partir d'un objet doté de toutes les disgrâces. Alors il y a cette dimension aussi que les parents doivent ressentir par rapport à leurs enfants lorsqu'il s'agit de leur donner la meilleure chance, hein, d'être au mieux de ce qu'ils sont. Et puis qui tient aussi de certains mystères qu'on peut éprouver face à un lieu qui, derrière une apparence très disgracieuse, se révèle plein de grâce. Et j'essaye de donner des différents exemples de ce sentiment de grâce qui tient à la fois à des lumières, à des propriétés matérielles, mais aussi j'ai essayé d'explorer les dimensions plus psychanalytiques sur la question de l'habitat, sur la question de la généalogie, sur la question du temps, sur la question de l'espace. J'ai essayé de creuser toutes les dimensions qui construisent notre attachement à une maison.
Alors, vous citez de nombreux auteurs, Nathalie Hennig, dans cet ouvrage, qui ont écrit sur la maison, sur le chez-soi, sur habiter, et notamment Gaston Bachelard, auteur notamment de la poétique de l'espace, publiée au PUF en 1957. Je vous propose de l'écouter en 59 au micro de Paul Chavas sur les ondes de la radiodiffusion française.
J'ai commencé par le commencement. J'ai commencé par montrer que la maison, la chambre, la maison c'est trop grand, c'est pas la chambre, était, si vous voulez, quasiment un corps, presque un corps maternel qui nous reçoit la nuit. Et alors, par conséquent, j'ai regardé, si vous voulez, enfin la poésie du repos. En sous-titre, j'aurais dû mettre, n'est-ce pas, l'espace heureux, c'est l'espace où l'on se repose. Alors, c'est par la maison que j'ai commencé. Puis la maison, je l'ai... j'ai dit toutes ses puissances. Il y a des pages sur la cave et sur le grenier. J'ai montré que l'homme qui va au grenier est un homme plus solitaire. Un enfant va bouder dans le grenier. Hein? Vous n'avez jamais fait cela? Avez-vous eu un grenier dans votre
vie? Bien sûr, heureusement.
Bon, heureusement. Et les femmes ne vont pas à la cave dans mon pays. Vous
moi,
alliez à la cave
non.
Eh bien
non.
Voilà, par conséquent, vous voyez, voilà la maison qui est caractérisée d'une façon extrêmement sensible.
Gaston Bachelard en 1959 avec Paul Chavas, la maison caractérisée d'une façon extrêmement sensible. Vous vous inscrivez dans cette lignée, Nathalie Hennig.
Oui, sauf que chez Bachelard, on est plutôt dans l'ordre de la réflexion, hein, même si c'est pas de la réflexion très théorique, mais c'est quand même de l'ordre de la réflexion, alors que moi j'ai vraiment essayé de proposer un témoignage. Donc c'est à la fois très personnel, parce que ça raconte des tas d'anecdotes, des objets qui marchent, qui marchent pas, etc. Ça peut sembler très anecdotique, mais au-delà de l'anecdote et au-delà de la spécificité d'une maison, j'ai essayé de toucher quelque chose qui relève d'une expérience beaucoup plus générale, hein, beaucoup plus universelle, et qui en effet qui rejoint ce que Bachelard a essayé de penser d'une façon un peu plus théorique. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de l'ancrer dans une spécificité, dans un objet très précis qui est cette maison-là. C'est pour ça que le livre est sous-titré « Histoire de la retrouver » et en même temps de le faire avec un travail d'écriture. Parce que si j'écris des choses qui ne sont pas de la sociologie, c'est justement pour pouvoir faire un travail d'écriture qui n'est pas du même ordre que l'écriture qu'on a en sciences sociales.
Et en même temps, il nous reste peu de temps, mais voilà, cette maison qui soigne, la maison parfois, et on l'a bien vu là aussi pendant le confinement en particulier, elle peut être inhospitalière quand on ne peut pas en sortir, quand c'est trop petit. Elle ne soigne pas toujours, la maison.
Certes, mais je dois dire que j'ai terminé ce texte avant le confinement. J'ai terminé en janvier, donc il n'a absolument rien à voir
absolument,
avec le confinement.
Bien sûr, oui.
Mais j'étais confinée dans cette maison et ça a été très agréable, bien sûr. Et je pense aussi, je ne cessais de penser aux gens qui sont confinés dans des espaces domestiques beaucoup moins agréables parce que trop petits, parce que mal placés, etc. Et là, j'ai mesuré l'extraordinaire distorsion de possibilités entre les gens qui ont la chance d'avoir un habitat où ils se sentent chez eux vraiment bien et puis ceux qui ont un habitat qui n'est pas du tout conforme à leurs besoins. Et là, on a vraiment une inégalité qui me paraît être aujourd'hui l'inégalité la plus criante.
Merci beaucoup Nathalie Hennig. Le Pont Neuf de Christo, ouvrage d'art, œuvre d'art ou comment se faire une opinion est publié aux éditions Thierry Marchès et La maison qui soigne, histoire de la retrouver est à paraître le 17 septembre aux éditions Thierry Marchès également. Merci beaucoup.